Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Il est encore temps de présenter ses voeux à ceux qui ne les auraient pas encore reçus ou qui ne les auraient pas encore écoutés à cette télétransmission. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yvan Koenig. Le professeur Yvan Koenig est bien connu, c'est un philologue, c'est un égyptologue, il a été professeur au CNRS, il a enseigné à l'école pratique de hautes études. Vous avez aussi enseigné à l'Institut catholique de Paris, je crois le hiératique.
Oui.
Voilà. Il est aussi le traducteur de grec moderne de nombreux ouvrages de spiritualité. Et récemment, ces deux dernières années, j'ai vu paraître de vous deux ouvrages. L'un qui était la traduction de la thèse de Mgr Amphiloque sur Palamas, naturellement, et sur l'anthropologie, je dirais... trinitaire de Palamas, et puis tout récemment, à l'âge d'homme, vous avez publié aussi la traduction d'un père spirituel, Kegalambos. Mais vous avez aussi publié beaucoup d'autres ouvrages dans une série spirituelle.
Oui, les grands spirituels orthodoxes du XXe siècle,
voilà.
Dirigé par Jean-Claude Larcher.
Voilà. Donc c'est une personnalité de premier plan qui nous fait l'honneur de nous rejoindre et qui va inaugurer un cycle de conférences qui va durer jusqu'en juin, tournant autour de Saint-Jean Cassien. Cher monsieur, je vous laisse la parole et je me retire en écoutant avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous allez nous dire.
Merci, Père. Donc je présente moi aussi mes voeux à tous les téléspectateurs et avec une petite pensée particulière pour mes amis égyptiens, mes amis d'Égypte, qui, je sais, m'écoutent ce soir. Je vais parler donc de Saint Jean Cassien dans le cadre d'une série de conférences. Et aujourd'hui, c'est une conférence d'introduction. Et donc, je ne vais pas aborder directement le sujet, mais je vais essayer de dresser un peu le tableau, la situation dans laquelle Saint Jean Cassien va se retrouver. Évidemment, dans ce tableau, je vais insister sur des faits, des événements qui concernent directement la spiritualité de Saint Jean Cassien. Donc je rappelle simplement, mais on y reviendra beaucoup plus en détail dans la prochaine conférence, que Saint Jean Cassien se situe autour de 360-435, donc il est à cheval sur le 4e et le 5e siècle. Et ce soir, je voudrais m'appesantir sur le 4e siècle. Ce qui est remarquable chez Saint Jean Cassien, c'est qu'il incarne dans sa personne l'unité du monde chrétien au 4e et au 5e siècle. Il va se déplacer d'un bout à l'autre de l'Empire. Il va être un lien vivant entre l'Orient et l'Occident. Il est celui qui, plus que tout autre, a transmis l'expérience spirituelle des pères d'Égypte à l'Occident. Avant d'aller en Égypte, il a séjourné aussi en Palestine. Il a donc été en contact avec les deux grandes zones monastiques du Proche-Orient, à savoir la Syrie-Palestine d'une part et l'Égypte d'autre part. Donc je voudrais présenter brièvement la situation de ces régions un petit peu avant l'arrivée de Jean Cassien et dans le but d'expliquer aussi les choix que va faire Jean Cassien dans sa spiritualité. Il est évident que ces deux zones ne vont pas l'influencer de la même manière et qu'il sera beaucoup plus influencé par le monachisme égyptien et sur lequel je m'appesantirai davantage. Je vais donc présenter d'abord, dire quelques mots sur l'ensemble syro-palestinien, qui est caractérisé à l'époque par le fait qu'on parle dans cet ensemble une langue qui est le syriaque, c'est une langue en fait qui est une forme d'araméen, et qui va devenir la langue principale des chrétiens du Proche-Orient jusqu'au 5e siècle. Ce qui est très étonnant dans cette région, c'est que le christianisme va prendre des formes tout à fait originales et spécifiques. Il va se répandre en particulier à partir des communautés judéo-chrétiennes, mais sera très influencé par des courants spécifiques. D'une part, la spiritualité que l'on peut qualifier de gnostique. La gnose est un mouvement que vous connaissez sans doute, je ne peux pas développer ici trop longtemps parce que c'est en dehors du sujet. Disons simplement que dans la gnose, vous savez que une des grandes caractéristiques de la gnose, c'est de dire que le Dieu créateur est un Dieu mauvais et que le Dieu bon est au-delà du créé, au-delà donc du monde matériel, et que donc il faut s'abstraire de ce monde matériel, remonter en quelque sorte vers le Dieu bon. Et que le Christ, parce que ce sont des chrétiens aussi, il ne faut pas l'oublier, le Christ est venu justement pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est la lecture en quelque sorte gnostique du christianisme. On a des textes très fameux qui sont caractéristiques de cette spiritualité, et l'un des plus intéressants, c'est sans doute l'Évangile selon Thomas. L'Évangile selon Thomas, qui maintenant nous est bien connu parce qu'il a été retrouvé en Égypte encore, et qui est très probablement d'origine syrienne. Et cet évangile est particulièrement intéressant parce qu'il est assez peu marqué par la pensée gnostique qui elle-même va devenir de plus en plus complexe. Il est assez proche, si vous voulez, des évangiles canoniques avec quand même des influences très certaines de la pensée gnostique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est ancien. Il date du IIe siècle environ. On a donc aussi dans cette zone un écrivain qui s'appelle Bardesan, comme ça se prononce, qui est Bardesan, qui est le premier écrivain chrétien et qui aurait été lui-même disciple d'un gnostique. Et on lui attribue une très belle composition gnostique qui est l'hymne de la perle. La perle étant justement ce qu'il faut rechercher et qui est enfoui dans le mal, et voilà. Et donc son hymne de la perle est une description de cette recherche de l'essentiel, de ce qui est important, et qui est caché, qui est difficile à trouver, parce que le monde est mauvais. On a aussi des compositions comme les Odes de Salomon, qui sont très influencées par la gnose. Deuxième courant qui est important aussi à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'Encratis ou l'Encratis, E-N-C-R-A-T-I-S-M-E. Ça vient d'un mot grec qui veut dire Encratia, ça veut dire la continence. C'est un courant qui déprécie le mariage, le corps, et insiste de façon quasi exclusive sur la continence sexuelle. On le rencontre dès le IIe siècle chez un écrivain très connu aussi qui s'appelle Tatien, et on en trouve des traces dans un ouvrage, le Dia Thessaron, qui s'écrit D-I-A-T-E-2-S-A-R-O-N, qui est la traduction syriaque des évangiles. Si l'on regarde un petit peu ces textes, on voit que des termes reviennent avec insistance. Le terme de virginité, Betulata, qui vient de Betula comme en hébreu, et le terme Kadishuta, comme en hébreu Kodesh, Kutz aussi en arabe, c'est-à-dire la sainteté. Et la sainteté signifie quoi dans ce contexte? C'est le renoncement au mariage, pour ceux qui sont mariés. Au moins dans un premier temps, dans cette forme de christianisme, le mariage n'était conféré qu'à ceux qui renonçaient au mariage. Le baptême était conféré qu'à ceux qui renonçaient au mariage. Donc vous voyez que c'était assez spécial comme spiritualité. Et dans le même ordre d'idées, on a une distinction qui est faite entre deux sortes de chrétiens. Et ça, c'est une caractéristique de cette spiritualité syriaque des premiers siècles. On distingue les justes, par exemple, qui travaille et se marie, des parfaits, qui renoncent à tout, y compris au mariage. Et ça, on trouve ça dans un ouvrage de l'époque qui s'appelle « Le livre des degrés ». Et on a une vision très radicale, si on veut, de la vie chrétienne. La vie chrétienne est conçue comme étant une vie dans l'esprit. On a une mystique pneumatique qui va influencer des écrivains très connus, comme saint Éphrem, par exemple, qui va reprendre des thèmes de cette mystique pneumatique. L'esprit, la présence de l'esprit en l'homme est liée à une pratique radicale ascétique, mais aussi, pas exclusivement, aussi des pratiques sacramentelles. Le problème, évidemment, c'est que vous voyez, dans ce mouvement, vous avez des spirituels très radicaux qui vont souvent être en opposition avec la hiérarchie ecclésiastique. Et pour eux, d'ailleurs, pour ces spirituels, l'exercice même de charge ecclésiastique est contradictoire avec la vie dans l'esprit. Par réaction, dans d'autres ouvrages, et en particulier dans un ouvrage comme « Le livre des degrés », l'auteur ne cesse d'insister sur la nécessité de passer par l'Église visible. Tout ça, ce sont des courants, vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas très structurées, et on va avoir un courant très important qui va s'appeler le messalianisme, M-E-2-S-A-L-I-A-N-I-S-M-E. Le messalianisme, ça vient, je le crois, d'un mot syriaque qui veut dire « prier », qui considère que le fait de prier, le fait d'acquérir l'Esprit Saint, doit se traduire d'une façon sensible dans l'homme, c'est-à-dire qu'on le ressent, et on est, quand on est arrivé à ce stade-là, on est libéré du péché. Donc, on est plus soumis à la discipline ecclésiastique. Bien évidemment, vous voyez qu'il y a une tension entre ce mouvement spirituel radical qui prend des formes complexes multiples et les autorités ecclésiastiques. Les synodes vont condamner, bien évidemment, les messaliens et la vie vagabonde. Et c'est à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, que les communautés monastiques vont commencer à se former. Donc il y a une progression. On voit que le monachisme se met en place, en quelque sorte, dans cette région. Au début, on a des formes même de pré-monachisme, où on a des gens qui vivent dans la communauté, mais en respectant la continence. C'est pour ça qu'on les appelle solitaires. Le terme qui est employé, « ihadiyé », vient d'une racine sémitique qui veut dire « un »,« wahad » ou « ihad », comme on veut, en arabe ou en hébreu. Et c'est une traduction, en fait, de « monaki ».« Monakos », ça veut dire « celui qui est un ». Et ils sont considérés comme des fils ou des filles d'un pacte qui les engage à vivre dans la continence. Et le monachisme, au sens strict du terme, va naître dans cette région à partir du moment où ces gens qui font partie donc de la communauté vont s'abstraire de la communauté, vont partir dans le désert, se séparer du monde pour vivre dans la solitude. C'est ce qu'on appelait l'anachorèse, le fait de quitter, de partir. Et les premiers témoignages que l'on ait de ce mouvement remontent à Éphrem vers 363-373. Je ne vais pas trop m'étendre, parce que le temps quand même m'est compté, donc je ne vais pas trop m'étendre, et ce sont quand même des questions qui sont un petit peu périphériques par rapport au sujet. Donc, mais je veux simplement souligner, si vous voulez, que le mouvement anachorétique va se répandre en Mésopotamie au IVe siècle, et que le fait de voir un mouvement de ce type se se développer au IVe siècle est lié aux persécutions. C'est évident. Parce que les gens sont persécutés, ils vont se réfugier dans des zones où ils seront à l'abri des persécutions, et donc dans les parties montagneuses. Et alors, ce qui est assez intéressant à voir aussi, et ça, là, je tire mes renseignements d'un très bon article du professeur Antoine Guillaumont, c'est que le monachisme syrien est né de lui-même, et pas sous l'influence du grand frère égyptien. Et donc, c'est un monachisme qui s'est développé de par son propre mouvement dans cette zone. Puis après ça, le monachisme égyptien va exercer son influence. Et c'est lié surtout à des très grandes personnalités monastiques, comme saint Antoine, par exemple, saint Macaire ou saint Paco. Donc on voit que le monachisme, c'est intéressant, est lié d'une certaine façon à la notion de désert aussi. Si on regarde un petit peu cette notion dans le contexte de toute la région, on voit que à peu près dans toute la région, les gens ont la même conception du désert. C'est un endroit, bien sûr, aride, mais c'est l'endroit où vivent les démons. C'est un endroit où on peut se purifier, parce qu'on est au contact du mal, et donc on peut lutter contre ce mal. On peut, et c'est là où on peut subir des épreuves pour rencontrer Dieu. Ces deux notions sont fondamentales dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle que l'Exode, par exemple, voit le peuple d'Israël partir d'Égypte et faire un grand séjour dans le désert pour se purifier, en fait, avant d'être à même, d'ailleurs, ce qu'il ne pourra pas faire, ce sera une autre génération qui le fera, mais pour entrer en Terre Sainte. Et très rapidement, d'ailleurs, ce périple et cette entrée dans la Terre Sainte va devenir une image de la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie ascétique, la purification nécessaire avant de pénétrer effectivement dans la Terre Sainte. Je vous rappelle que c'est dans le désert que Jean-Baptiste fait son annonce. En plus, c'est un lieu de refuge. Le Christ se réfugie dans le désert. Il s'en va pour prier. Il s'écarte de la foule et il va dans le désert pour prier. Mais c'est aussi dans le désert qu'il est tenté. Et c'est aussi un lieu de refuge pour l'Église. Et ceci jusqu'à la venue du Christ. Nous avons un passage dans l'Apocalypse, par exemple. Tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie, 1260 jours, c'est dans l'Apocalypse. Et la femme ici, c'est l'Église. Cette anachorèse est bien connue en Égypte et depuis longtemps. À l'origine, les gens paysans, souvent, s'en vont dans le désert, comme ailleurs on prend le maquis. Plus souvent parce qu'on a des problèmes avec les autorités, problèmes avec les impôts, problèmes avec la justice, et ça dure encore maintenant. Enfin, en Égypte actuelle, ça existe encore. Et donc vous avez les violentes persécutions qui sont abattues sur les chrétiens dans tout l'Empire depuis le 1er siècle jusqu'au 4e, avec les persécutions de Dioclétien et de Maximien, vont renforcer ce mouvement, c'est évident. L'Égypte copte et l'Église copte sera profondément marqué par le martyr et par la notion même de martyr. L'ère des martyrs est fondatrice pour l'Église copte. Dans le courant du IVe siècle, la situation va changer, vous le savez, je n'insiste pas, l'édit de Milan, dans lequel Constantin donne la liberté de culte et la restitution des biens des chrétiens. Le martyr, donc, imprègne cette première communauté égyptienne, et on voit un des grands tenants de la communauté d'Alexandrie, je veux dire Origène, qui a rédigé une exhortation aux martyrs. Son père est alors en prison et il va l'exhorter à tenir bon. C'était pas, vous voyez, c'était quelque chose qui était vécu de façon extrêmement concrète. Il s'adresse à son père, qui d'ailleurs mourra en martyr, et lui-même, Origène, sera très violemment torturé plus tard et mourra aussi des suites de ses blessures après les persécutions d'Odèse en 250. Saint Antoine lui-même va se rendre à Alexandrie pour apporter son soutien aux martyrs. Il était, le texte de la vie de Saint Antoine par Saint Athanase nous dit qu'il était aliftis, c'est-à-dire celui qui oint le corps de l'athlète, vous savez, qui rentre dans le stade. C'est-à-dire que le combat, la vie spirituelle, le combat spirituel est comparé depuis longtemps, depuis au moins Saint Paul, au combat qu'on mène dans l'arène. Et là, ce n'était pas une image. C'est-à-dire que l'image est devenue concrète, si l'on peut dire. Et Origène encourage donc son père. Saint Antoine lui-même va soutenir les martyrs. Et en même temps, il ne sera pas lui-même martyr parce que depuis 306, l'évêque d'Alexandrie a interdit de rechercher le martyr. L'attitude des chrétiens, c'est de ne pas l'éviter, mais c'est aussi de ne pas le rechercher. Et nous dit saint Athanase, dans la vie de saint Antoine, il donnait l'impression de s'attrister parce qu'il n'était pas devenu martyr. Mais le Seigneur le gardait pour notre bien et celui des autres, afin d'en faire dans la cesse qu'il avait apprise lui-même des Écritures, le maître d'un grand nombre. En effet, rien qu'à voir sa manière de vivre, beaucoup s'efforçaient d'imiter sa conduite. Il était martyr par le témoignage de sa conscience. Donc là, nous avons déjà l'idée que du martyr spirituel, du martyr de la conscience, qui, en quelque sorte, prend la suite du martyr concret et vécu. D'une certaine façon, les persécutions ont aussi favorisé la diffusion du christianisme. Tout simplement parce que les gens se sont répandus dans l'arrière-pays. Alors que le christianisme était surtout un phénomène urbain, il va très rapidement devenir, et surtout un phénomène lié à Alexandrie, il va se répandre assez rapidement en Égypte au cours du IIIe siècle. Le patriarche d'Alexandrie va toujours avoir un rôle très important dans la mesure où c'est lui qui ordonne les évêques d'Égypte. En 325, au concile de Nicée, on compte 50 évêchés en Égypte et 10 dans les provinces libyennes. À la fin du 4e et au début du 5e, on en compte 75 en Égypte et 23 en Libye. C'est comme les communautés locales vont se gouverner elles-mêmes et le développement important du nombre des fidèles à l'extérieur des villes va conduire au cours du IVe siècle, à l'établissement d'églises autonomes. Et on peut noter aussi que le patriarche d'Alexandrie, donc, a des liens étroits avec les évêques, puisque c'est lui qui les ordonne, et il a des liens étroits avec les communautés monastiques. Ça, ce sera aussi une des caractéristiques, par exemple, de saint Athanase, et le fait que saint Athanase ait écrit la vie de saint Antoine n'est pas non plus complètement hasard. Cette expansion rapide du christianisme fut de plus favorisée par une crise économique qui affecta l'Égypte. Là, c'est un fait nouveau qui a été mis en valeur par un chercheur américain et qui a montré justement qu'il y avait une certaine corrélation entre la crise économique qu'a connue l'Empire au IVe siècle, le fait que les temples païens ne pouvaient plus être vraiment soutenus, ne plus recevoir de subsides impériaux, et donc ils ont décliné. Progressivement, vous allez avoir l'apparition du saint local, dont la figure va se substituer à celle du prêtre païen. Et donc, contrairement à ce que l'on avait pu croire, apparemment, le christianisme s'est répandu en Égypte avec une relative facilité. Relative. Mais évidemment, l'expansion même du christianisme va engendrer un gros problème. Et je voudrais vous lire à ce sujet une page du père Jean Mayendorf. Au IVe siècle, dit-il, le christianisme entra dans une ère nouvelle, et c'est alors que les anachorètes isolés de l'époque ancienne furent suivis par des milliers d'imitateurs. Devant une église tout heureuse de la protection impériale nouvellement acquise, comblée de richesses et de privilèges, ils voulurent sauvegarder à la communauté chrétienne un aspect qui doit rester le sien jusqu'au retour du Seigneur, celui de la femme fuyant dans le désert, citation de l'Apocalypse. En somme, écrit un écrivain catholique spécialiste de l'histoire de l'Église, qui s'appelle Louis Bouillet, ce n'est pas le monachisme qui est nouveau au IIIe, IVe siècle, c'est la situation des chrétiens qui est nouvelle. Parce que les chrétiens de persécutés passent à une situation où ils sont intégrés maintenant, officialisés, et il y a évidemment un danger considérable à voir un nombre important de personnes rejoindre l'Église pour des raisons purement opportunistes ou de carrière. Et donc c'est un danger terrible pour l'Église qui risque de perdre en quelque sorte sa vocation. Et on peut considérer, c'est l'idée du père Jean Mayendorf, on peut considérer que le monachisme est en quelque sorte une réponse à ça. Le monachisme, dit-il, reprit ainsi dans l'Église le ministère prophétique que l'ancien Israël avait lui aussi connu. Il formait contrepoids une Église embourgeoisée et somnolente qui avait accueilli si facilement dans son sein les foules gréco-romaines et qui profitait sans remords de conscience des largesses du très pieux empereur. Voilà. Et en Égypte, on a souvent considéré que saint Antoine, donc les dates de saint Antoine, c'est 251-356, saint Antoine était le père des moines. Bon, c'est vrai globalement, mais si on lit sa vie avec quelque attention, on voit que par exemple, il s'est exercé à l'ascèse près de son village, auprès d'un ascète qui était là. Donc il existait avant Saint-Antoine des gens qui pratiquaient la vie ascétique. On notera que le sens de cette ascèse, et ça on y reviendra pas mal dans la seconde conférence, je jette simplement ici un préalable, pour Saint-Athanase, cette ascèse est profondément christologique. Car dit-il, le Seigneur collaborait avec lui, lui qui pour nous a revêtu la chair, et donner au corps la victoire sur le diable. Aussi, chacun de ceux qui combattent, ainsi peut-il dire, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est l'incarnation du Christ, en quelque sorte, qui permet aux moines de vaincre ses passions et d'acquérir l'Esprit Saint. Par son incarnation, le Logos a revêtu notre corps. Par son combat spirituel, le Christ lui a donné la victoire sur le diable. En se revêtant de la chair, il l'a divinisé par son ascèse. Et désormais, l'homme, l'ascète, le chrétien en général, dans son combat, participe de la nature divine. Cette conception de l'incarnation sous-tend toutes les pratiques ascétiques chrétiennes. On peut distinguer deux grandes phases dans le combat ascétique que mène Antoine. D'abord, une recherche permanente de solitude que les moines appellent Hésychia, H-E-S-Y-C-H-I-A, H-E-S-Y-C-H-I-A, ou quiétude. C'est un mot grec qui veut simplement dire tranquillité. Cette recherche le fera se déplacer constamment. Quand on regarde son trajet, on voit qu'il n'arrête pas de bouger et qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans le désert. Il a besoin d'isolement pour mener son combat sans être troublé par les visiteurs qui se font de plus en plus nombreux. Puis, dans une seconde période, une fois qu'il a vaincu les démons et que son combat, et qu'il continue d'ailleurs bien évidemment, mais n'a plus tout à fait la même nature, il est gratifié de charisme. Et quiconque vient le visiter s'en retrouve transformé. Donc on voit, si vous voulez, qu'il y a deux phases dans la vie ascétique. Une phase qui est celle de l'isolement et de la lutte contre les passions, mais on y reviendra dans la seconde conférence. Et une deuxième phase où, une fois cette victoire sur les passions, victoire relative bien évidemment, parce que c'est jamais complètement acquis, une fois que cette victoire relative sur les passions est acquise, à ce moment-là, le spirituel peut rayonner vers l'extérieur. Et Saint Athanase a une phrase extraordinaire. Il dit que Saint Antoine était devenu le médecin de toute l'Égypte. C'est-à-dire que les gens accouraient le voir et il était un secours spirituel. Il avait des charismes, il avait les charismes de discernement, il voyait ce dans quoi les gens souffraient, il leur venait en aide, il était à même de leur venir en aide. Et que c'est par son ascèse qu'il avait aussi obtenu ses charismes. Il discute aussi avec les empereurs, il prend part aux querelles théologiques, il lutte contre les Ariens. Bref, c'est une... La vie d'Antoine, telle qu'on la voit, est une vie qui, d'une part, est une vie individuelle, mais qui conduit à un épanouissement considérable vers les autres. Parallèlement, d'autres communautés vont se développer. Et là, j'ai une petite carte que je voudrais peut-être vous soumettre, si on peut faire le point, simplement pour essayer d'être un peu clair. Vous avez donc le monastère où s'est établi saint Antoine, qui est assez loin dans le désert. Vous voyez, après qu'il ait parcouru la vallée, il s'est enfoncé dans le désert et il est proche de la mer Rouge. D'autres communautés vont s'établir, en particulier la communauté fondée par saint Macaire dans le Wadi Natroun. Donc vous voyez, nous sommes entre le Caire et Alexandrie, et le Wadi Natroun, c'est cette dépression-là. En remontant vers le nord, vous avez une communauté, les Kélia, où il va y avoir un ascète très connu sous le nom d'Évagre. Et puis on arrive à la communauté, une des communautés les plus anciennes de la région, qui est celle de Nitrie, qui est fondée par Saint Amoun, qui d'ailleurs fondera aussi les Kélia. Voilà, donc regardez bien cette carte. Et enfin, pour compléter tout ça, vous avez au sud, dans la région au nord de Thèbes, vous avez la région de la ville de Tabénèse, qui est là, et c'est là où va s'établir Paco. Et je vais y revenir tout de suite. Donc vous avez Paco, du sud au nord, Paco, je remonte, Antoine, Macaire, Évagre, Amoun. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Merci. Donc, parallèlement, va se développer donc une communauté, donc celle de Nitrie, donc nous sommes ici, avec Amoun. Hein, et comme la communauté de Nitrie est trop développée et trop nombreuse, son fondateur Amoun va chercher un endroit plus tranquille, plus calme, plus solitaire, et va s'enfoncer dans le désert. Et c'est lui aussi qui va être le fondateur des Kélia, la communauté qui est un peu plus au sud. La première communauté, donc la communauté des Kélia, va être fondée par Amoun et Antoine. Saint Macaire, de son côté, Saint Macaire, les dates de Saint Macaire, c'est 390, va fonder une communauté dans le Wadi Natroun, le désert, la communauté de Sété, que vous avez ici, S-C-E-T-E, Sété. Le Wadi, ce qu'on appelle un Wadi en Égypte, ça veut dire, vallée, c'est peut-être pas une très bonne traduction, parce que vallée en Occident, ça donne une idée de fertilité, de verdure. Et Oued, ça serait pas mal, parce que les Français connaissent le mot Oued. Mais c'est une vallée désertique, disons. C'est une dépression désertique entre le Caire et Alexandrie, où se trouvaient des lacs salés. Ces lacs salés, de ces lacs, on extrayait le natron. Le natron, c'est-à-dire une forme de sel, une sorte de sel, d'où le nom de Wadi Natroun, tout simplement. Et Macaire, le grand Macaire, était d'une famille de chameliers qui avait participé à ce commerce du natron. Il rendit visite à Antoine, il va s'affirmer comme le père spirituel des moines qui se sont regroupés autour de lui, et il mourut à Cété en 390. Il est difficile de savoir combien de moines se trouvaient dans ces communautés. Palade, qui a séjourné aux fonctionnaires, qui a séjourné à Nitrie vers la fin du 4e au début du 5e, nous dit, dans cette Oros, la Oros, c'est le terme grec, si l'on traduit exactement, ça veut dire montagne. Ce n'est pas la montagne ici dont il s'agit. C'est la traduction d'un mot égyptien, en fait, qui désigne le plateau désertique qui s'étendait de part et d'autre du Nil. Habite donc dans cette Oros, on peut le traduire d'ailleurs aussi par habitat monastique, habite environ 5000 hommes qui ont des diverses formes de vie, politie, chacun comme il peut et comme il veut, si bien qu'il est permis de vivre aussi bien seul qu'à deux ou dans un groupe de plusieurs. Intéressant tout ça. Bon, 5000, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Faut pas prendre les chiffres qu'il donne de façon trop stricte. Il donne pour les Kélia 600 moines, ce qui semble aussi excessif. De toute façon, on peut retirer de ces indications qu'il s'agit d'un monachisme qui concerne un grand nombre de personnes. Nous avons quelques indications aussi sur la façon dont le site se présentait. Nous savons comment ça se présentait parce qu'un site comme les Kélia a été fouillé. C'est un des rares sites monastiques qui subsiste et qui a été fouillé. On voit que l'habitat monastique a évolué. Au début, il peut s'agir d'une simple fosse creusée dans le désert, puis vient l'époque des constructions. Et c'est assez étonnant de voir d'ailleurs comment ça se développe. On voit qu'il s'agit de petites constructions standards, sur un plan standard, où un moine vit avec un novice, dans deux appartements séparés. Et ces ermitages sont généralement bien conçus. Il y a un oratoire, il y a des magasins, il y a une petite cour avec un puits, il y a un jardin, et les ermitages se regroupent autour d'une église, et les moines s'y rendent essentiellement le samedi et le dimanche, le samedi soir et le dimanche. Plus tard, en raison de l'insécurité, les habitats seront plus concentrés et entourés par une muraille, et on érigera des tours. De ces simples considérations, il ressort que le monachisme égyptien est un monachisme très différent de celui qu'on a pu voir, par exemple, en Syrie. C'est aussi différent de celui de Saint-Antoine dans sa première période, parce que dans sa deuxième période, Saint-Antoine va aussi regrouper des disciples autour de lui. Ce qui caractérise ce monachisme, c'est qu'il n'est pas individuel, mais semi-communautaire. C'est Saint Pacôme, la date de Saint Pacôme, c'est 290-346, qui est le fondateur du monachisme cénobitique ou communautaire. Saint Pacôme, je vous l'ai montré tout à l'heure avec Tabénès, donc nous sommes dans le sud de l'Égypte, près de Thèbes. Il fit l'expérience de la charité chrétienne lorsque, enrôlé de force dans l'armée, des chrétiens vinrent à lui pour le ravitailler pour ravitailler le convoi de recrues auquel il appartenait. Libéré, il reçut le baptême et se mit à l'école d'un ancien. Il a été toujours... Ce qui est intéressant aussi, et ça on y reviendra peut-être, c'est que chaque fois, chaque spirituel, saint Antoine, saint Pacôme, saint Macaire, est frappé d'une certaine façon par un aspect, si on veut, de l'Évangile, et ça va déterminer sa vocation, en quelque sorte. Ça va le pousser à réaliser quelque chose dans sa vocation. Un ange lui indiqua que la volonté de Dieu était qu'il se mît au service des autres. Et il comprit que l'amour de Dieu consiste à prendre de la peine les uns pour les autres. Il souhaite rassembler une communauté qui soit à l'image de celle des premiers chrétiens à Jérusalem. Autour de Tabénès, dont on a déjà parlé, il va, puis d'autres endroits, il va rassembler des filiales et sa congrégation va être très importante. On a dit jusqu'à 5000 moines. Il est humble, il est ferme, il est rayonnant, c'est le père spirituel par excellence. Et en plus de ça, il a des capacités d'organisateur. Et deux fois par an, des chapitres généraux assurent l'exactitude de l'observance de la congrégation. À l'intérieur de chaque monastère, les moines sont regroupés en maisons d'après les métiers qu'ils pratiquent. L'obéissance aux règles se substitue à la liberté des anachorètes. Vous voyez que là, il y a une grosse différence aussi avec les anachorètes. Les anachorètes ne sont pas vraiment soumis à une règle. On pourra y revenir si vous voulez. Alors que là, c'est différent, ils sont soumis à l'obéissance. Rédigés en copte, les règles de saint Pacôme seront traduites en grec puis en latin par saint Jérôme. Donc, dans ce tableau du monachisme proche-oriental, moyen-oriental, on peut distinguer deux types de spiritualité qui ne sont pas contradictoires. Je voudrais insister là-dessus. Une spiritualité qui insiste plus sur l'ascèse individuelle, comme c'est le cas en Syrie, où cette ascèse va prendre parfois des formes très extrêmes. Si on lit les récits, ça peut prendre le port de chaînes ou l'isolement sur des colonnes, enfin bon. L'autre forme est communautaire. Étant communautaire, elle est forcément aussi plus mesurée. L'obéissance à un ancien et la soumission de l'individu à une règle commune est considérée comme une forme d'ascèse, le renoncement à la volonté propre. De plus, c'est une ascèse qui est fondée sur un discernement profond, où l'on distingue à la fois des degrés dans l'ascèse et une souplesse dans le mode d'application. On peut noter, et ça il faut insister là-dessus, qu'il ne faudrait pas opposer les formes collectives ou semi-collectives des CT ou des Kélia avec des formes individuelles. Pas du tout. C'est pas du tout l'esprit de ces communautés. L'esprit de ces communautés, c'est de considérer que l'ascèse qu'ils pratiquent est ouverte à tous, est destinée à tous. C'est simplement la mise en pratique, d'une certaine façon, de l'Évangile. Et qu'il y a des degrés dans cette ascèse, qu'il y a une progression dans cette ascèse, qui peut conduire certains à vouloir aller plus loin. Et c'est ça aussi une caractéristique du monachisme oriental, c'est qu'elle n'a jamais exclu le monachisme individuel. Par ailleurs, l'ascèse ne saurait être la même pour tous, et il y a un apophthegme qui exprime bien ce fait. Il nous raconte qu'un haut personnage de la cour se fit moine. Il habita à Cété, près de l'église. Il avait un serviteur pour l'aider. Et le prêtre, voyant sa faiblesse et cherchant en doute dans quel confort il avait vécu, lui envoyait tout ce que Dieu procurait et qui arrivait à l'église. Un des grands anciens égyptiens, ayant eu vent de sa renommée, vint le voir, pensant trouver chez lui une plus grande ascèse corporelle. Or, il vivait dans un petit confort. Ses vêtements étaient soignés. Il avait même une natte de peau, dit l'apophthegme, en dessous de lui et un petit oreiller pour dormir. Des sandales. Bref, l'Égyptien fut scandalisé. Au cours d'un dialogue, l'un se révèle avoir vécu dans un très très grand confort et être issu d'un très haut milieu. Alors que l'autre, l'Égyptien, était un simple paysan, qui dormait sur le sol de son champ et qui buvait de l'eau. En fait, l'Égyptien vivait à Sété dans des conditions plus confortables que celles qu'il avait connues quand il était paysan. Alors que le très grand personnage avait dû renoncer à beaucoup de choses pour vivre comme il vivait. Et l'Égyptien de conclure, « Malheur à moi, car j'ai quitté tous les inconforts du monde pour venir au repos. Et ce que je n'avais pas, je le possède maintenant. Mais toi, tu as quitté un grand repos pour venir à l'affliction, et après beaucoup de gloire et de richesse, tu es parvenu à l'humilité et à la pauvreté. » Ça, c'est remarquable de discernement et d'intelligence. On peut méditer sur cet apophtègme. Cette ascèse pleine de discernement caractérise celle qui a été pratiquée en Égypte d'une certaine façon, et d'une certaine façon, des sites comme Nitri, Lekelia et Sété reproduisent l'itinéraire de saint Antoine qui s'est enfoncé toujours plus loin dans le désert. Si vous regardez sur la carte, vous voyez que Nitri était proche d'Alexandrie, donc Amun a voulu aller un peu plus loin, il a fondé Lekelia, et que plus loin dans le désert, vous aviez encore Sété. Et qu'à Sété, vous aviez des moines qui quittaient les communautés pour s'installer comme ermites, en fait, mener une vie d'ermite. Il y a donc un parallèle que je fais, c'est un parallèle, il ne faut pas non plus exagérer, entre la vie d'Antoine et la vie de ces moines. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que non seulement ça ne l'a pas coupé des autres, mais au contraire, ça lui a donné, je parle de saint Antoine, ça lui a donné la capacité d'intervenir auprès des autres. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la conception qu'ont les ascètes de cette époque, c'est que l'on ne peut pas vraiment aimer de façon chrétienne si l'on n'a pas au moins lutté contre ses passions. Et c'est alors seulement, lorsqu'il y a eu ce combat, qui est mené d'ailleurs évidemment avec la grâce de Dieu, c'est alors seulement qu'il est devenu le médecin de toute l'Égypte. C'est-à-dire que tout le monde est accouru vers lui et qu'il a pu venir en aide à tout le monde. Je vous remercie.
Peut-être annoncer comment ça continue.
Oui, peut-être pourriez-vous nous dire l'articulation des futures conférences, et que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent comment Jean Cassien va s'insérer dans ce tableau.
Voilà. Écoutez, il y a une chose que je conseille donc aux auditeurs et aux spectateurs, c'est de lire la vie de saint Antoine. Je pense qu'on peut la trouver aussi sur Internet. C'est une vie qui est très riche d'enseignements et qui permet aussi de comprendre un peu ce qui va se passer ensuite avec saint Jean Cassien. La façon dont j'envisage les conférences, eh bien, je vais rentrer vraiment là dans le vif du sujet avec la deuxième conférence, en montrant comment saint Jean Cassien va se situer lui-même par rapport au courant monastique qu'il va rencontrer. Et on va voir, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a chez saint Jean Cassien un discernement profond. C'est pas quelqu'un qui reproduit mécaniquement, mais il va en quelque sorte adapter, faire évoluer ce qu'il a vu, en fonction aussi de toute une réflexion qu'il va mener lui-même. Il ne faut pas non plus croire que cette vie s'est produite dans un calme plat, où tout le monde était d'accord, etc. Non, nous sommes dans une époque extrêmement troublée. Et il y a beaucoup de débats théologiques. Il y aura la querelle origéniste. il y aura Arius, etc. Tous ces débats vont agiter beaucoup les moines d'Égypte, et l'expérience de saint Jean Cassien découle aussi d'une réflexion sur ces débats. Donc, dans mon sens, saint Jean Cassien exprime de façon profonde une continuité avec les pères et en même temps, on peut dire, une maturation et une réflexion et une adaptation aussi aux nouvelles conditions qui vont être les siennes en Occident. Donc, et c'est ça que je voudrais montrer avec la deuxième conférence, c'est-à-dire à la fois l'influence et l'adaptation. Et après, je voudrais rentrer plus précisément dans les œuvres de saint Jean Cassien, les institutions cénobitiques et les conférences.
Donc, pour mieux nous préparer à votre prochaine conférence, vous conseillez vivement de lire la vie de saint Antoine.
Oui. Peut-être, évidemment, si vous le pouvez, ce qui me semble quand même fondamental, c'est de lire saint Jean Cassien. Oui. Oui. Si vous pouvez, lisez saint Jean Cassien. C'est quand même lui. En plus, si vous pouvez, lisez la vie de saint Antoine, qui est un ouvrage absolument capital pour l'évolution de la spiritualité.
Nous vous remercions beaucoup.
Je vous en prie.
Très instructif, et puis on a hâte de vous entendre pour cette seconde conférence.